Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur la confiance. Il y a la confiance ordinaire, on pourrait dire, cette belle confiance qui est conditionnée, qui fait que je suis en confiance dans certaines situations, avec certaines personnes. Et que dans ces moments-là, le corps est détendu, le cœur est en paix, la pensée est tranquille. La confiance dont j'aimerais parler ce soir, c'est une confiance différente. C'est cette confiance qui vient lorsque nous commençons à connaître le qui suis-je et qui ressemble à ce que le Bouddha appelle l'inébranlable paix du cœur. C'est une confiance qui n'a rien à voir avec l'assurance ou la sécurité ou ce qu'on pourrait dire un bon karma. C'est une forme d'ancrage dans l'espace et le silence de la vie et de contemplation de toute cette danse qui s'y passe, en moi, dans l'autre. Il y a des fois la paix, des fois la turbulence, le cœur s'ouvre et puis le cœur se ferme. Quelquefois les choses sont rapides et puis elles sont lentes. Il y a l'harmonie et tout à coup, la disharmonie, le conflit. Comment rester en confiance avec tout ça? C'est au fond tout le travail de la méditation, mais pas seulement. L'art permet quelquefois de toucher à cette subtilité, endroit où il y a une ouverture aux choses telles qu'elles sont. Béjart, par exemple, qui parle d'être en même temps dans cette mouvance, complexité, limite de l'existence, tout en ayant un pied dans l'espace, le silence, l'infini, l'universel, ce qui est au-delà. Ou Mozart, je vous ai pris une petite parole où il parle de ce qu'il fait, je trouve très beau, il dit « La grande musique va chercher au fond de nous-mêmes le chagrin secret qui nous dévore. Joie et chagrin se fondent l'un dans l'autre. » et combinent si bien leur sortilège que la joie devient douloureuse et le chagrin exquis. Cette musique nous fait entendre une harmonie sereine et pathétique en même temps, une paix troublée par l'aveu d'une secrète nostalgie. Ce bonheur calme et large qui s'échafaude sur le drame maîtrisé, dompté. Et c'est au fond ce que nous découvrons peu à peu dans l'exercice de la méditation. C'est cette possibilité d'être et être, c'est recevoir les 10 000 joies et les 10 000 peines avec un cœur serein, en confiance. Et ça veut dire que nous ne sommes plus dupes. Nous savons qu'il n'y a rien à changer dans l'expérience, mais que ce que nous pouvons changer, c'est le lien que nous créons à l'expérience. Comme dit Ajahn Sumedho, nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre regard sur le monde. Et avec la confiance vient cette responsabilité d'une conscience qui sait, c'est moi qui crée le monde, maintenant. Et je ne donne pas de pouvoir à qui que ce soit d'autre, ou à quoi que ce soit d'autre. Ce qui est à l'extérieur n'est qu'une représentation de mon monde intérieur. Qu'est-ce que j'en fais de ce monde extérieur? Comment est-ce que je le considère? Donc le chemin, c'est un cœur ouvert à ce qui est. Donc c'est un cœur ouvert au mouvement même du cœur. Ça n'est pas, c'est subtil à décrire. Le cœur ouvert, c'est la conscience ouverte. C'est pas ce cœur romantique ou agréable. C'est cette conscience qui, cet espace de réceptivité qui sait recevoir tout. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est une conscience que nous ne sommes pas... Christiane posait la question, qu'est-ce que c'est ne pas être l'expérience? Que nous ne sommes pas que l'expérience. Nous faisons des expériences sans cesse parce que nous sommes dans un corps et un esprit. Mais il était où? Cette conscience que le corps et l'esprit portent aujourd'hui, elle était où avant que nous soyons nés? Elle sera où une fois que nous serons morts? Et lorsque nous questionnons ça, nous rendons la vie plus pleine parce qu'elle s'inscrit dans un contenant. Elle n'est pas que ce moi avec ce temps limité de vie qui nous est donné. Il n'y a pas de moi sans l'extérieur, sans l'air que nous respirons. Nous ne donnons pas tellement d'importance à l'air que nous respirons. Moi, mes émotions, tout ça, waouh. Il n'y a pas de moi sans l'air. Alors, on pourrait bien donner autant d'importance à l'air, finalement. La confiance, c'est cette réflexion-là qui fait que nous avons de l'intérêt pour le qui suis-je, dans son entier. Et ça veut dire que nous acceptons la rencontre avec l'ombre, ce que le Bouddha appelle Mara. Le diable. Le diable qui est un ange, qui est un ange noir, parce que c'est ce qui bloque, ce qui limite, ce qui enferme, ce qui stresse, qui emprisonne, qui opprime, qui nous met à l'étroit. Et pourtant, c'est un ange. Parce que nous avons à conquérir Mara. Le jour de son illumination, le Bouddha a eu toutes les flèches de Mara qui sont arrivées contre lui. Et grâce à la force de sa pleine conscience, avant que ces flèches ne le touchent, elles se sont transformées en fleurs. C'est-à-dire que elles n'avaient aucun pouvoir sur lui. Et la confiance, c'est ça, c'est de savoir dire quand, du fait de l'impermanence, l'ombre arrive. Je te vois, Mara. C'est comment maintenant? Et l'intérêt reste. C'est le rôle ontologique de la souffrance. La souffrance, c'est ce qui nous réveille. C'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et la gratitude, bien sûr, nous avons d'abord de la gratitude pour tout ce qui fait du bien, tout ce qui est doux, tendre, enveloppant, riche, joyeux, lumineux. Mais lorsque nous approfondissons le thème de la confiance, notre gratitude peut aller dans cet aiguillon de la souffrance. Et quand tout à coup ça émerge, je sens la flèche au cœur. Waouh, merci. Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Et si vous explorez en vous, lorsque tout va bien, dans les grandes profondeurs, ça roupille. Tout va bien. Et tout d'un coup, ça va mal. Et qu'est-ce qui se passe dans nos grandes profondeurs? Waouh! C'est extrêmement vivant et alerte. Nous sommes en quête. Comment est-ce que je peux lâcher, retrouver cet ancrage et cette paix à laquelle nous aspirons si profondément? Le Bouddha a longtemps cherché la libération à l'extérieur, en faisant des grandes austérités, en se laissant presque mourir de faim, en cherchant des états de concentration extrêmement subtils. Et puis un jour, il s'est souvenu d'un moment dans le jardin de son père où il n'y avait pas grand-chose. Il était là. Et puis, il n'y avait juste pas d'attachement. Et c'est ce qui lui a donné cet élan pour découvrir le chemin du milieu qui permet de lâcher prise ici et maintenant. Qui permet de nous libérer de ce stress du sens du moi. Moi, qui doit ci, qui doit ça, qui aurait dû, qui devrait, qui pourrait, qui... Et du coup, toi, la demande que j'ai aussi sur l'autre, ou sur le monde. Nous n'avons pas à lutter contre Mara, contre notre peur, notre jalousie, notre colère, notre angoisse, notre obstination, notre confusion, ou notre trop-plein d'inquiétude ou de... Non. ça n'est pas contre, c'est avec. C'est un combat sacré qui demande de la détermination et de la rigueur, et aussi beaucoup de patience et de bienveillance. Et ça n'est pas seulement dans le bouddhisme qu'on nous propose de nous engager de cette manière-là. Tout chemin qui veut aller au-delà de simplement avoir des mérites ou colmater plus ou moins les brèches de notre souffrance va dans ce sens-là. Et j'aimerais vous lire Annick de Souzenel. Il y a longtemps que je ne l'ai plus lue, celle-là. Annick de Souzenel, c'est une mystique chrétienne elle était infirmière et puis elle a étudié l'hébreu. Elle s'est beaucoup intéressée à la Bible dans son sens vraiment profond. Et elle a parlé de notre Caïn et notre Abel intérieur. Et c'est drôlement intéressant. La lutte de Caïn et Abel à l'intérieur de nous-mêmes, entre autres. Je vous lis ce qu'elle dit par rapport à la confiance, à la paix. La paix n'est pas le contraire de la guerre. Les artisans de paix sont ceux qui entrent en conflit, non pas contre, mais avec leur adversaire intérieur, avec l'inaccompli de leur grande profondeur. La recherche de notre identité est la vraie guerre. Qui suis-je? Il n'y a pas de repos dans cette guerre-là. C'est bon d'être dans la lumière, mais nous n'avons pas à nous y installer. La paix, c'est d'accepter d'entrer dans ce non-répit, dans ce travail, où je vais toujours plus près de ma source. La paix, c'est une guerre sainte avec soi-même. Nous construisons la confiance en lâchant prise de cette croyance que si je fais tout ce que je veux pour aller dans ce que j'aime, ça va être bon. Et puis que quand tout ce que j'ai fait pour que je veux, puis voilà que je suis dans le j'aime pas, c'est horrible. Nous sortons de cette histoire de chance et de malchance. Et nous entrons dans une attitude beaucoup plus noble. Le Bouddha parle de Arya, être dans quelque chose qui est ouvert à ce respect de l'instant tel qu'il est. Et il y a trois aspects qui aident à construire cette confiance. Au niveau psychologique, c'est la compréhension que les émotions perturbatrices sont extrêmement précieuses, qu'elles ne sont absolument pas agréables. Elles sont quelquefois franchement redoutables, que nous avons à les prendre avec subtilité, avec délicatesse, mais que c'est là que la libération peut nous rejoindre. Et nous pouvons voir comment la grande souffrance de l'identification est liée à ces émotions perturbatrices. Le moi se crée parce qu'il y a une douleur émotionnelle. Ce n'est pas la souffrance qui crée, ce n'est pas moi qui crée la souffrance, c'est la souffrance qui crée le moi. Et souvent, lorsque une émotion demande à être illuminée par la conscience, La première manifestation, c'est la pensée. La pensée qui vient me dire, il y a une erreur quelque part, ça joue pas comme ça. Qu'est-ce que, ouah, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Alors ça, c'est un gros thème, c'est pas juste. Eh non, c'est pas juste. La vie n'est pas juste. Nous pouvons bien sûr faire notre part pour qu'il y ait plus de justice, mais la vie n'est pas juste. Nous pouvons lâcher ce souhait impossible qui nous met dans le doute. La pensée souvent camoufle une peur ou une frustration, une colère. Et nous pouvons questionner quand la pensée est obsessionnelle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Dans l'exercice de la méditation, c'est souvent l'ennui qui crée la pensée. Je viens m'asseoir, je m'ennuie profondément. Alors je fais plein de bonnes pensées, c'est sympathique. Et il n'y a aucun problème, mais c'est important de voir. Ah ouais, je m'ennuie là. Ouf. Ok, je pense. L'autre aspect dont le Bouddha a parlé et qui aide à construire la confiance, c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé, voir comment l'expérience se crée. Qu'est-ce qui fait que maintenant il y a une émotion perturbatrice ou des pensées ou des explorations diverses? Quel a été le premier contact? Tout premier contact. Je peux revenir en arrière et voir. Il ne m'a pas regardé. Je croyais qu'il voulait me regarder, il ne m'a pas regardé. Ça peut être des choses aussi bêtes que ça. Et ça. Trigger to trigger, ça. Comment on dit trigger?
Ça déclenche.
Ouais, ça déclenche. Ouais. Quelque chose du passé où. Une fois, je n'ai pas été regardée, ça a eu un impact. Et ça y est, c'est parti. Toute la pensée associative, le ressenti, les constructions, ça démarre. Et des contacts, nous en avons toute la journée. La plupart sont neutres. Certains sont extrêmement agréables et déclenchent tout un processus de joie et d'appréciation. Et certains sont tout à fait désagréables et déclenchent le doute essentiellement. Que ce soit un doute envers moi-même, envers l'autre, envers la situation. Ces cinq agrégats, ce qu'on appelle les cinq agrégats, le contact qui engendre le ressenti et la représentation ou le souvenir, la pensée associative, et qui engendre des constructions, des fabrications mentales, et la conscience, bien sûr, la conscience ordinaire, sont appelés les agrégats de la saisie. Lorsque nous ne faisons pas œuvre de connaissance, lorsque nous ne voyons pas le processus, alors c'est ce qui nous emprisonne. Nous sommes emprisonnés dans l'inquiétude, dans le doute ou dans la colère. Et en développant la concentration, les choses vont plus lentement. Il y a un peu d'espace à l'intérieur de nous-mêmes. Et alors nous pouvons voir. Ça fait pas boum, 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 ça y est, j'y suis, puis j'y reste. Ou ça fait peut-être comme ça, boum, 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 ça y est, j'y suis, je reste, mais je vois que j'y suis. Ah ouais, attends, je suis là. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Et je vais en arrière et je vois, ah ouais, d'accord, je m'attendais à ce que servir ça au repas, pas ça, ou bien il s'est servi avant moi, ou bien ces petits trucs, hein, il fait du bruit avec la bouche, ou bien ah, plein de trucs, moi, plein de trucs tout le temps. Le dernier aspect qui aide à construire la confiance, parce que il y a moins ce sens du moi, ce stress du moi qui doit réussir, être bien, faire tout juste, c'est la réflexion sur le sens du temps. Nous sommes des êtres temporels. Et le moi, il aimerait beaucoup être éternel. Mais nous pouvons observer, regarder que c'est un souhait vain. Du moment où nous sommes nés, nous allons mourir. C'est peut-être là la plus grande justice sur cette terre, encore qu'il y en a qui se font congeler pour le cas où. Et c'est vrai que nous ne vivons pas nos vies avec cette proximité de notre finitude. Nous vivons notre vie, nos vies comme si nous étions permanents, comme si nous étions existants à jamais comme je suis maintenant. Et alors, quand tout à coup la maladie vient, ou la mort d'un proche, ou eh ben c'est le choc, parce que nous ne sommes pas prêts, parce que la confiance est limitée à un conditionnement illusoire, avidya, l'ignorance. Et dans une retraite, lorsque nous nous rapprochons de l'instant présent et que nous lâchons toute cette anticipation conceptuelle, ou cette. Soit il y a l'anticipation, soit il y a le regret, je vais en arrière, je refais le monde. Nous pouvons voir que l'instant, il passe son temps à mourir. Il émerge et passe. Il émerge et passe. Ce matin, mes doudounets, c'est mort. Le début de mon enseignement, il est mort. Et nous mourrons sans cesse. Pour les jeunes, c'est peut-être un peu plus difficile que pour nous autres, les vieux, mais si nous imaginons comment nous étions à 20 ans, je me rencontre là, moi, à 20 ans. Hey, bonjour, c'est pas moi, hein? Mais c'est pas moi du tout. Et pourtant, nous disons moi. Nous continuons à dire moi. Parce que nous vivons dans cette illusion d'un moi permanent, qui est une construction, c'est une pure pensée. Et dans une retraite, cette souffrance du temps, elle vient souvent. Hein? C'est long. C'est long. Mais quand nous habituons le corps à vivre cet instant, juste l'instant, ou plutôt ce trois quarts d'heure qui est fait de multitudes d'instants, alors la relation que nous créons au temps change. Et c'est une grande libération. Ça donne énormément confiance de ne plus toujours être là et vivre là-bas. Ce sont donc trois aspects qu'il vaut la peine de temps en temps amener en conscience et avoir une petite réflexion quand c'est long. Eh ouais, c'est la souffrance du temps, c'est merveilleux. Une fois, je ressens ce que c'est que le temps, plutôt que de le meubler toujours pour jamais le sentir. Nous avons donc à apprivoiser Mara jusqu'à ce que ces flèches de notre inaccompli n'aient plus de pouvoir sur nous. Devenir dans une retraite où nous sommes seuls, où il y a une séclusion, non pas, nous ne sommes pas dans des cellules, nous sommes ensemble, mais il y a une grande séclusion puisque nous évitons le contact, si possible le contact visuel, en tout cas tout contact à travers la parole. Nous sommes dans un horaire qui nous cadre. Nous n'avons plus besoin toujours de réfléchir à ce que je veux faire. C'est tout décidé pour nous. Si nous voulons lâcher prise de ce que je veux, oh, tout est fait pour nous. Ça sonne, je vais m'asseoir. Ça sonne, je vais marcher. Ça sonne, je vais manger. Ça sonne, je tourne m'asseoir. Ça sonne. Ah, c'est merveilleux. Je peux lâcher le moi. Alors vraiment, je peux venir là. Je tourne mon intérêt sur ce que vit le corps, ce que vit le cœur. Et quand je dis le cœur, c'est notre sensibilité, agréable, désagréable, neutre. Et je peux tranquillement commencer à conscientiser la qualité des pensées qui émergent et pas. Et elles sont toujours très simples. Vous avez quoi comme pensée? Des pensées du passé, vous en avez? Du futur, vous en avez? Est-ce que vous avez des évaluations? Est-ce que vous avez de temps en temps de l'imaginaire? Est-ce que vous avez de temps en temps du jugement? De temps en temps du doute? Ah ben voilà, on y est. On y est. C'est simple. Et c'est la seule chose qui nous est demandée pour développer la confiance. Quelle est la nature de cette pensée qui vient d'émerger? Et après, je m'intéresse à la suivante, puisqu'il y en a toujours. C'est merveilleux. Et nous nous méfions beaucoup du pourquoi. Ah ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On ne peut pas répondre au pourquoi. Le Bouddha a donné cette image. Le Bouddha a dit « Je suis venu vous enseigner la souffrance et la fin de la souffrance. » Et il donne cette image d'un homme qui vient de recevoir une flèche empoisonnée. Et puis, autour de lui, ce qu'on va faire, ben, c'est retirer la flèche. C'est ce que fait le Bouddha dans tous ses enseignements. Et c'est ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire quand nous venons en retraite. C'est comme si cet homme qui vient de recevoir la flèche, on demande, ah ouais, avant de la retirer, ah ouais, mais attends, c'est fait avec quel bois, puis le poison, c'est quel poison, et puis c'est quelle tribu qui a tiré cette flèche, c'est celle-là ou celle-ci. Il a le temps de mourir bien avant que quoi que ce soit se passe. Et lorsque nous demandons pourquoi, nous sommes dans ce qu'on appelle avidya, l'aveuglement. Nous ne voyons pas où est... Nous ne sommes pas dans la cible. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons transformer en tant qu'être humain. Nous nous croyons tout puissants. Je peux transformer les choses. Pourquoi? Alors je vais faire comme ci, puis comme ça, puis ça marche. Oh. Et puis on essaye, on essaye, on essaye. On s'épuise et ça marche jamais. L'extérieur vient là pour nous défier, justement dans cette confiance qui fait que je prends ma responsabilité. J'ai confiance dans l'expérience. C'est pas tellement bon art peut-être, hein? Mais c'est ce qui est. Eh ben, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'emploie tout ça pour grandir? Ou est-ce que je me perds dans le pourquoi, le comment, pour que ce soit autrement? Et lorsque nous faisons ça, c'est pas grave, sauf que nous souffrons, parce que ça revient. Ça revient jusqu'à ce que j'arrête. Hein? Jusqu'à ce que je prenne soin. La peur va revenir me mettre dans l'extérieur. Comment je peux faire pour changer tout ça, pour que j'ai moins peur? Jusqu'à ce que je lui donne de l'intérêt. Donc vous n'avez pas besoin de trop vous stresser pour faire juste. De toute façon, ça revient. Donc c'est une erreur de vouloir se débarrasser de l'expérience douloureuse, de Mara. Mais c'est aussi une erreur d'y croire. C'est pas vrai, c'est réel dans l'instant, mais c'est impermanent, subjectif. Quelqu'un d'autre avec exactement la même histoire, il vivrait autre chose. C'est illusoire, non moi. Donc nous pouvons commencer à vérifier comment je dis les choses. Est-ce que je peux dire il y a? Plutôt que de dire « waouh, c'est mon angoisse, ma colère ». Non, il y a de l'angoisse, il y a de la colère, il y a de l'obstination, il y a… Qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui?
Hein? La douleur.
Il y a de la douleur. Quoi d'autre?
L'aversion.
Il y a de l'aversion. Quoi d'autre? Oh, il n'y a pas grand-chose. Désir. Quoi d'autre? Fatigue. L'ennui.
Confusion.
Confusion.
Somnolence.
Quoi? De la somnolence, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu encore?
Tristesse.
De la tristesse.
De la peine.
De la peine.
Du ras-le-bol.
Du ras-le-bol. Ouais. Bon, de temps en temps de la joie.
Oui.
Ah.
De la
délectation. De la délectation, ouais. Et donc l'alternative, c'est plutôt que de dire « oh horreur », c'est « oh coucou, coucou, ah c'est de nouveau la peur ». Et la pleine conscience engendre la confiance. C'est Ajahn Chah qui dit « Qu'est-ce que la confiance ? » La confiance, c'est la fin de la peur. La confiance est en nous et elle peut être trouvée à la même place que l'agitation et la souffrance. Quand vous expérimentez la souffrance, vous pouvez aussi trouver la fin de la souffrance. Essayer de fuir la souffrance, c'est courir après elle. Il y a une troisième chose qui peut aider beaucoup à engendrer la confiance. C'est de comprendre la loi du karma. Peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, parce que toute pensée est une création. mais il y a simplement des créations utiles et des créations inutiles. Et pour moi, qu'on ait des existences passées, futures, peu importe, mais de réfléchir de cette manière-là, de nous situer dans quelque chose de plus vaste que ce moment entre ma naissance et ma mort, ça aide à lâcher un moi trop limité. Ça permet de comprendre, dans le sens comprendre, des énergies qui peuvent émerger et qui appartiennent à quelque chose de plus large que ce que je peux reconnaître dans cette vie. C'est cette loi de cause à effet qui fait que j'accepte que lorsque quelque chose m'arrive, c'est pas par hasard. Il y a un mystère qui permet que l'expérience que je vis maintenant soit inclue dans, comment dire, dans une logique qui m'échappe. Par exemple, le Bouddha a dit une chose qui, moi, m'a beaucoup aidée. Un temps, j'avais terriblement mal à la hanche, que toute douleur physique, c'est une purification d'un karma passé, qui peut être un karma d'une autre vie. Simplement lorsque j'ai mal, si je me dis, oh mince, qu'est-ce que je vais faire, c'est horrible, waouh, je souffre double, hein. Si je me dis, c'est de la purification karmique, je fais ça pour les autres, je fais ça pour, parce que c'est là et puis que j'ai rien d'autre à faire, mais au moins ça sert à quelque chose, c'est pas rien. Ah, c'est autre chose. Je le vis complètement différemment. Et s'intéresser à la loi du karma, ça permet de donner sens à beaucoup d'énergies qui émergent, qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas. Ça lâche ce rêve que le monde pourrait être parfait. Et ça nous aide à ne pas recréer de la souffrance. Nous purifions ce que nous pouvons purifier. Et nous faisons notre possible pour faire le bien et éviter de faire le mal. Par égoïsme, on pourrait dire presque. Par sagesse, mais simplement parce que il faut arrêter une fois cette roue qui tourne. Cette roue du samsara. Donc la réflexion sur cette loi de cause à effet implique un élan pour arrêter et pour faire confiance à ce qui émerge. Ça ne m'appartient pas. Je fais œuvre de purification d'une manière beaucoup plus large que simplement pour moi. Et ça n'est pas du tout une manière de dire « Oh, ma foi, c'est le destin, et puis je baisse les bras. » C'est presque le contraire. Ça implique que je prends une responsabilité qui est plus grande que simplement mon confort ou mon petit bien-être. » Lorsque la confiance se développe, le doute diminue. Ce doute qui est pénible parce que nous sommes désorientés, tiraillés, démunis quelquefois face à la vie, face à l'instant en retraite, lorsqu'il y a le doute. Et le doute diminue parce que la concentration et la pleine conscience augmentent. Il n'y a plus la place. Nous avons une certaine place à l'intérieur. Lorsque cette place est occupée par la pleine conscience et l'intérêt pour l'instant, alors il n'y a plus de place pour le doute. Et alors cette confiance nous permet de mettre le moi et les pensées à leur place. Nous savons que tout ce qui se partage, qui se crée là, c'est subjectif, c'est pas vrai, que c'est réel dans l'instant, donc j'en prends soin, mais je sais que ça va passer, et toutes mes pensées essayent d'exprimer ce qui est inexprimable. La confiance, d'une certaine manière, c'est le cœur de la croix. Comme c'est Pâques demain, je ne sais pas pourquoi je parlerai demain, si c'est Pâques, je sais. Comme c'est le cœur de la croix, on peut voir cette verticale comme étant liée au chemin progressif et au chemin immédiat. Le chemin progressif, c'est cette résonance d'universel en nous, d'infini, de toutes. Le haut de la croix, ce serait cet univers, cet immensément grand. Et puis le bas de la croix, c'est cet immensément petit de l'instant. Juste maintenant, j'y suis. J'y suis, quoi. Et puis tous ces j'y suis, ça crée l'univers. Et puis, il y a l'horizontale, qui est cette qualité de fraternité, d'amour, de toi, de moi, de cœur. Et avec la confiance, nous sommes au cœur de la croix, c'est-à-dire que nous nous sentons connectés, nous savons que c'est un grand mystère que nous soyons nous, nous pourrions aussi bien être n'importe lequel des gens sur cette planète. Mais enfin bon, je suis là, alors je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et en même temps, j'appartiens totalement et à l'instant et à l'infini. Et ça fait que nous pouvons un peu abandonner ce stress d'un moi qui doit tout faire, qui doit tout être, qui doit tout décider, contrôler. Et alors, le moi est là, au service, et nous pouvons laisser faire le dharma. Et c'est bon dans l'assise, quand je viens m'asseoir, et puis je suis là, tranquille, et puis je laisse faire. Et ça se fait. Si nous pouvions ne faire que ça, ce serait assez. En étant alerte, hein, en étant bien là. Avec une petite parole qu'une participante m'a apportée et que je trouve très très belle pour dire d'une certaine manière la confiance. C'est de Marion Muller Callard. Je ne connais pas. Quoi qu'il m'arrive, il est juste et bon que le monde soit. Il est juste et bon que je participe de façon éphémère à quelque chose de plus grand que moi, et que ma marche fragile prenne appui sur la solidité des montagnes qui me survivront encore longtemps. Je vous propose que nous prenions 5 minutes en silence.